Vous écoutez toujours Radio Éthique, voici le reportage de Stéphanie Reynaud.
Les plus belles balades se font à pied. Le rythme lent de la marche permet d'admirer les monuments sous un angle privilégié. Jean-Marc Ferrier, sapeur-pompier de Monaco, il a décidé, une fois retraité, de faire partager aux visiteurs son amour de la principauté en fondant l'association « Au cœur de ma ville ». De quartier en quartier et toujours à pied, Jean-Marc explique aux touristes ce qu'ils voient, mais également ce qu'ils ne voient pas. Et c'est bien là tout l'intérêt. Suivons le guide pour une balade à travers l'histoire et les rues de Monaco.
Monaco, c'est pas simplement les immeubles de grande hauteur, c'est pas simplement les Ferrari que l'on voit, les Rolls-Royce, tout ce luxe qui s'affiche, les yachts dans le port, mais c'est aussi parce que Monaco a eu sa propre identité, son âme, et il fallait faire ressortir tout ça de quartier en quartier.
Et toujours à pied.
Alors mon concept, c'est tout à pied, donc c'est la visite guidée par un enfant du pays, absolument tout à pied, puisque le concept repose aussi un petit peu sur l'écologie et un peu une marche culturelle un peu sportive, il faut bien le dire.
Quelque part, c'est un cours d'histoire grandeur nature que vous nous donnez là.
C'est un cours ludique. Hein. Moi-même, étant enfant à l'école, j'avais appris l'histoire de Monaco, mais c'était un peu rébarbatif, parce que dans une salle de cours, c'est une salle de cours, on sort pas de là. Et avec le recul, j'ai dit mince, mais aujourd'hui, j'aimerais bien transmettre le savoir de la principauté aux personnes, mais d'une manière ludique et sur le terrain.
Alors j'imagine que les balades sont différentes en fonction des groupes, parce que les questions peuvent s'orienter différemment, en fonction des centres d'intérêt, de la curiosité de chacun.
Oui, absolument. Parmi mes visiteurs, j'ai des Italiens, je peux avoir aussi j'ai eu des Américains, des Français évidemment, et selon leur lieu d'origine, leur lieu d'où ils viennent, il y a toujours un contact de l'histoire de Monaco avec le pays d'où ils viennent. Monaco a un passé avec l'Italie, Monaco peut avoir un passé, surtout beaucoup avec la France, évidemment. Hein. Donc j'essaye de chaque fois de retranscrire un passage d'histoire de Monaco en fonction des visiteurs que j'ai, notamment des Bretons, des Normands, puisque l'histoire de Monaco nous prouve, nous a montré que nous avions dans nos princes des Normands et des Bretons.
Et ce qui intéresse les Américains, j'imagine, c'est que vous leur parliez de la princesse Grace.
Absolument, j'ai eu un couple d'Américains qui connaissaient absolument bien la vie de la princesse Grace. Et qui voulait tout savoir.
Alors vous êtes polyglotte, vous faites du coup la visite dans plusieurs langues ?
Je fais la visite, essentiellement en français évidemment, mais en anglais et en italien. L'italien, je le parle couramment. L'anglais, je le parle, l'anglais scolaire. Hein. Justement, de mon travail associatif, c'est justement de prendre des cours d'anglais pour m'améliorer dans cette langue. Et pour pouvoir relater au mieux l'histoire de Monaco en anglais. Mais je ne suis pas encore, si vous voulez, apte à prendre un groupe entier, un couple, d'accord ? Mais un groupe entier, j'ai toujours des amis ou des connaissances qui me font l'interprète.
Alors on va vous suivre, il fait beau, là on est sur le port de Monaco, on remonte doucement vers la place du casino, c'est ça ?
Donc là on va monter sur la terrasse du casino via le boulevard Louis II, et là-haut, une fois sur la terrasse du casino, j'expliquerai aux visiteurs l'origine de la société des bains de mer, pourquoi il y a eu un jour le casino, pourquoi quand c'est appelé le quartier de Monte Carlo, puisqu'avant ça s'appelait le plateau des Spélugues, puis en face de nous, nous aurons un panorama sur le port, et j'en profiterai pour leur parler de la digue semi-flottante, la digue Régnier 3, qui est un chef-d'œuvre offshore qui avait été inscrit dans les grandes lignées du prince Régnier 3.
Donc du coup, vous faites un petit peu de toponymie, vous expliquez le nom des places, le nom des rues, leur origine ?
Oui, absolument. Notamment, il faut savoir que le plateau des Spélugues, ça s'appelait Spélugues parce que Spélugues en monégasque, ça veut dire petite grotte, par exemple. Je pourrais vous citer aussi le jardin des Boulingrins, qui est en réfection actuellement, donc on ne pourra peut-être pas le visiter. Le jardin des Boulingrins, ça vient de la déformation linguistique de l'anglais Bowling Greens. Il faut savoir qu'au 19e siècle, les Anglais, ils aimaient venir jouer à toutes sortes de jeux de boules dans ce terrain qui s'appelait donc le jardin des Boulingrins, voulu par Marie Blanc. Et donc ça s'est francisé par The Bowling Green, c'est devenu Boulingrin.
Qu'est-ce qu'on en apprend des choses avec vous ?
Oui, et puis il y en a encore plein d'autres.
Allez, alors on vous suit.
Allez. En premier plan, là, vous avez une œuvre de Valsarelli. Ça s'appelle l'Hexagras. Ça représente les trois éléments, la terre, la mer et le ciel. Et c'est fait tout à fait avec des céramiques de lave. Et au fond, là-bas, vous avez la digue semi-flottante, qu'on appelle aussi la digue Régnier 3. C'est un chef-d'œuvre offshore qui a été construit à Algeciras, dans le détroit de Gibraltar. Parce qu'on avait un souci d'augmenter la capacité du port. Premièrement. Deuxièmement, il fallait une structure d'accueil qui soit digne de ce port. Troisièmement, il fallait respecter l'environnement, la faune et la flore, puisque nous avons la réserve sous-marine du Larvoto qui est à proximité, mais aussi nous avons une grande profondeur à cet emplacement qui ne permet pas de construire une digue traditionnelle sur des pylônes. Alors donc, le prince Rainier III, dans la ligne de ses grands travaux pour la principauté, donc je vous rappelle, il y avait le quartier du Larvoto, le quartier de Fontvieille, la mise en souterrain de la voie ferrée et cette digue flottante, donc, qui est une œuvre aussi, on peut dire, du prince Rainier III. Il a ordonné au gouvernement de se pencher sur le problème et d'étudier un système qui permettrait de faire une digue à cet endroit-là. L'urbanisme s'est penché sur la question et on a inventé le système du mur d'eau fixe. Elle a été coulée, le béton a été coulé dans une tranchée longue de 400 mètres, large de 50 et profonde de 15 mètres. Le béton, il a été coulé en un seul tenant. Une fois que le béton a été sec, la tranchée a été ouverte et la digue s'est mise à flotter comme un bateau. Ensuite, elle a été remorquée pendant 3 semaines depuis Algeciras, depuis le détroit de Gibraltar, par 2 remorqueurs. Elle est arrivée à Monaco. Mais ça n'aurait pas pu se faire si au préalable, on n'avait pas fait le terre-plein qu'il y a au port là-bas et la mise en place d'une rotule, une rotule de 700 tonnes quand même en acier. Lorsque tous ces éléments étaient réunis, on a pu rattacher cette structure flottante au terre-plein par l'intermédiaire d'une rotule. Et ainsi, eh bien, la digue elle se comporte tout à fait comme un bateau. Elle flotte, elle a du tanguy, du roulis. Alors si à une extrémité elle était rattachée, à l'autre extrémité, côté menton, il fallait la rattacher par une série d'ancrages. Il y avait 2 séries de 4 ancres. Il faut savoir quand même que chaque maillon pèse 100 kg. La digue en elle-même, donc, elle mesure à peu près 365 mètres de long. Il y a quand même 4 étages de parking dans lequel on peut y parquer 360 véhicules. Voilà pour les caractéristiques à peu près techniques. La digue elle pèse 165 000 tonnes. Hein. Imaginez cette masse qui appuie sur l'eau, c'est un problème de physique. La poussée d'Archimède veut que tout corps plongé dans le liquide reçoit une poussée verticale du bas vers le haut, qui est égale au poids du volume déplacé. Donc c'est pour ça qu'elle flotte aisément, déjà d'une, par la propriété physique. Mais deuxièmement, cette digue, elle appuie, elle exerce une pression sur l'eau. Cette pression, on sait que les liquides sont incompressibles. Si les gaz le sont, le liquide non. Et cette pression qui s'exerce donc depuis le dessous de la digue sur le fond, l'eau est poussée sur les côtés. Ça fait quoi? Ça fait que lorsqu'il y a la houle qui vient du large, elle rencontre, elle vient se heurter sur la digue et comme elle se heurte à ce mur d'eau fixe, elle ne peut pas le traverser puisqu'il y a cette pression qui l'empêche. 1/5 passe seulement, le reste retourne au large. Ça veut dire que la force de la mer est divisée par 5. Et c'est très efficace parce que lors de la dernière tempête, moi je suis allé personnellement dessus la digue, et bien on peut dire que ça ne bouge pas. De l'autre côté, la mer non plus.
Après avoir observé la digue Rainier III du port de Monaco, retournons-nous pour admirer le casino de Monte-Carlo.
Ensuite, maintenant, on se retourne, on est face à ce casino. On est à la façade côté mer. Pourquoi il y a eu un casino un jour? Pour comprendre pourquoi il y a eu un casino un jour, il faut quand même faire un retour en arrière, en 1848. Tout à l'heure, je vous ai dit que la principauté de Monaco était constituée de Menton, Roquebrune et Monaco. Bien, nous sommes en 1848, les Mentonasques et les Roquebrunasques, on dit Asques parce que nous sommes dans une région ligure et qu'en Ligure, la terminaison c'est Asques. Donc Mentonasques et Roquebrunasques commencent à se soulever parce qu'ils veulent une constitution. Ils demandent une constitution au prince Florestan Ier. Cette constitution, elle tarde à venir, elle tarde trop. Ceux qui font les Mentonasques et les Roquebrunasques, ils se tournent vers le roi de Sardaigne parce que lui, entre-temps, il a sorti une constitution en accord avec le pape de l'époque. Quand les Mentonais et les Roquebrunasques voient ça, donc ils se mettent sous la protection du roi de Sardaigne et il se proclame surtout commune libre. Et cet état de commune libre, il reste latent jusqu'en 1860. À cette époque-là, le prince Napoléon III, il donne un coup de main à l'Italie, tout au moins au royaume de Sardaigne, qui est en plein essor pour former l'Italie qu'on connaît aujourd'hui. Mais il fallait chasser les Autrichiens. Donc Napoléon III, il donne un coup de main à l'Italie pour chasser les Autrichiens. Mais évidemment, le roi de Sardaigne, pour remercier Napoléon III et pour le sang versé par les Français pour le royaume de Sardaigne, le roi de Sardaigne consent à laisser à la France Menton et Roquebrune. Néanmoins, il demande quand même à ces gens-là s'ils veulent rester dans le royaume de Sardaigne, s'ils veulent aller vers la France ou s'ils veulent aller sur Monaco. La plupart ont voulu faire comme Nice, puisque Nice, c'était le comté de Nice et le duché de Savoie qui avait été à la France. Donc Menton-Orgue-Brune voulait faire pareil que le comté de Nice et le duché de Savoie. C'est comme ça qu'on a perdu, figurez-vous, plus de 90% de notre territoire. Hein. Le territoire faisait 24 km², on était réduit à 2 km². Autant dire que plus d'économie, plus de population, on était réduit à un simple rocher où il n'y avait que de la rocaille. On avait quelques oliviers, évidemment, quelques citronniers. Mais ça ne suffisait pas pour faire l'économie de la principauté, puisque la principale économie, surtout des citrons, venait de Menton et de Roquebrune, et des olives. Bien, à ce compte-là, il fallait trouver un système pour remonter un petit peu la principauté. On se tourne donc vers la maison souveraine, vers le Charles III à l'époque. Florestan Ier est décédé en 1856, c'est son fils qui prend le règne. Et ils avaient entendu parler de sociétés, de bains comme ça, qui se créaient sur la Côte d'Azur, notamment à Nice, et puis dans d'autres villes. Notamment, ils avaient entendu que dans une ville d'une principauté germanique, il y avait un certain François Blanc qui était directeur. Et on disait de lui que c'était le magicien de la finance. Tout ce qui touchait, il transformait en or. Très bien, la princesse Caroline, elle envoie son conseiller technique voir un petit peu ce qui se passe là-haut. Et ce dernier, il redescend en disant, voilà, Altesse, effectivement, il y a un François Blanc qui pourrait faire affaire. Ok, donc la princesse Caroline, le prince Charles III, ils se concertent et ils le font descendre. Parce que avant François Blanc, il y avait quand même eu des ordonnances pour créer une société de bains de mer, des thermes, tout ça, et un casino. Mais bon, il y avait bien eu deux journalistes parisiens, Aubert et Langlois, ils s'y étaient essayés. Ils avaient tout raté, quoi. Ils avaient monté un premier casino à la rue Grimaldi, ça c'est tombé à l'eau. Donc François Blanc, lui, sur ses entrefaits, il arrive. Et c'était un visionnaire. Il a de suite compris qu'on ne pouvait pas venir à Monaco. Les touristes ne venaient pas. Pourquoi ? Parce qu'à Monaco, il n'y avait pas d'accès. Il n'y avait que la mer et rien d'autre. Il y avait un tout petit chemin qui venait de la Turbie. Et c'est tout. Donc, et ce qui se passe, c'est que François Blanc, grâce à lui, il a fait venir la route de la Basse-Corniche en 1881. Mais avant ça, surtout, le train de chemin de fer en 1868. Lorsque le chemin de fer est arrivé jusqu'à Monaco, la route départementale du bord de mer, eh bien, tous les touristes sont arrivés et de là est né un nouveau quartier. Grâce aux bénéfices de la SBM, le prince Charles III a pu se permettre d'exonérer d'impôts ses sujets, mais il avait surtout tenu dans le contrat avec François Blanc la concession pour 50 ans d'écrire la société de bains de mer et le cercle des étrangers. Ça veut dire qu'au casino, grâce à cette formule, les monégasques n'ont pas le droit d'aller jouer. Donc ça, c'est l'anecdote importante à savoir. Alors ensuite, eh bien, il a fait venir une armada de petits bateaux qui faisaient le voyage entre Gênes-Monaco, entre Nice-Monaco. Les têtes couronnées sont arrivées et voilà comment est né l'essor de la société des bains de mer à Monaco. Donc le plateau de Spélugue, on le connaît maintenant, c'était le quartier de l'époque. Et ensuite, François Blanc a dit à son Altesse Sérénissime, le prince Charles III, « Monseigneur, maintenant, bon, il faut donner un nouveau nom au quartier, comment l'appeler ?» Alors donc, ça pouvait être Albert et Alizé, en l'honneur de son fils. Et finalement, c'est devenu le quartier de Monte Carlo. Pourquoi ? Parce qu'en italien, Monte Carlo, ça veut dire le mont Charles. Voilà l'origine de Monte Carlo. Et bien depuis, et bien on jouit de ce quartier où viennent se produire toutes les stars hollywoodiennes de la terre, où viennent les têtes couronnées, etc. etc.
En sortant du casino de Monte-Carlo, sur notre gauche, impossible de ne pas remarquer un monument incontournable en principauté, le prestigieux Hôtel de Paris.
Bon, on va parler un peu de l'anecdote de l'Hôtel de Paris. Bon, d'abord, cet Hôtel de Paris, tel qu'on le voit là, il date du début du XXe siècle, hein, avec sa façade remplie de balconnets, de cariatides accrochés aux façades, les oculis, tout ça. Ça, c'est un architecte, Paul Lehrmann, qui nous avait fait cette belle façade d'Hôtel de Paris. Ensuite, il a été rattaché les rotondes que vous voyez sur votre gauche, là. Donc, cette rotonde a été surélevée 3 fois. Les 2 premières fois par 2 étages et la 3e fois par 4 étages, donc plus récemment. C'est quand même une anecdote qu'on peut raconter, qui est assez intéressante. Pendant la guerre 39-45, les Allemands, ils avaient pris l'habitude de piller les caves des hôtels, des restaurants. Et il y avait des Allemands à Monaco. Et donc, ils se sont dit, on va piller les grands crus, les grands vins d'Hôtel de Paris. Donc, ils vont dans cette cave, ils vont se casser les dents dessus. Pourquoi ? Parce que le directeur de l'Hôtel de Paris, il s'était dit, nous, on va faire un autre stratège. Plutôt que de monter un mur comme faisaient les autres hôteliers dans les caves, pour faire croire que c'était le fond de la cave, nous, on va faire autrement. On va remplir le couloir qui fait 10 mètres de long, 5 mètres de haut et 1,50 m de large à peu près, par des bouteilles vides. Alors ils ont rempli ce couloir avec plein de bouteilles vides, et des bouteilles vides, des bouteilles vides. Les Allemands, quand ils sont arrivés là, eux, ils veulent nous avoir. Ils nous font croire que c'est un entrepôt de bouteilles vides. Mais niet, on va creuser et commence à enlever une bouteille, deux bouteilles, trois bouteilles, un mètre, deux mètres, trois mètres. Finalement, ils se disent, non, c'est effectivement une cave à bouteilles vides. Ils sont repartis comme ils étaient venus. Et par contre, derrière, tous les grands crus, les plus grands crus de l'Hôtel de Paris étaient en sécurité et il y en a encore aujourd'hui. Cette cave, c'est l'une des plus grandes caves privées en Europe qui a été creusée à la main à 15 mètres sous terre. Donc ça avait été voulu par Marie Blanc. Avant, à une époque, elle se visitait. Maintenant, je crois qu'elle se visite plus. Terminé. Le prince Rainier III et la princesse Grasse étaient venus pour un anniversaire, une commémoration. Tous les deux déguster un bon repas dans les caves d'hôtel de Paris. Ça, c'est une anecdote aussi, princière. Voilà, donc ce que je peux vous dire sur l'hôtel de Paris. Notre walking tour est terminé.
Monte Carlo, la Condamine, le Rocher, le Larvoto ou encore Fontvieille, les quartiers de Monaco n'ont plus aucun secret pour Jean-Marc Ferrier. Découvrez avec son association Au cœur de ma ville, l'âme de la principauté, loin des strass et des paillettes qui empêchent parfois de voir l'essentiel.
C'était un reportage réalisé par Stéphanie Reynaud.